Alors bonjour, je m'appelle Benoît Labourdette et donc en effet je vais parler de pratique, c'est-à-dire je suis entièrement sur la même longueur d'onde, on va dire, que ce que Carole Desbarra vient de développer. Moi je suis dans la pratique, c'est-à-dire que je suis intervenant et aussi formateur dans le domaine de la pédagogie, et pas seulement d'ailleurs, mais je suis donc confronté à des jeunes gens, qu'ils soient élèves dans des établissements scolaires ou que ce soit hors temps scolaire, très souvent. Donc ce dont je vais vous parler maintenant, les expériences que je vais vous relater, des petits extraits, petits films, je vais vous montrer deux, trois petits films faits par des jeunes aussi. C'est en appui sur une expérience concrète, et du coup je crois que finalement Carole Desbarra posait la question du pourquoi, en fait. Pourquoi on fait tout ça, à quoi ça sert finalement l'éducation artistique et culturelle, et puis l'éducation à l'image. Moi, c'est une question que je me pose en permanence, c'est-à-dire que le matin, si je dois faire une intervention, si je dois être confronté à des élèves par exemple, je me demande vraiment pourquoi je viens là, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, cette question, moi, ce que je propose, et je vais plutôt vous parler de la question du comment. Je vais vous faire quelques propositions, peut-être assez concrètes, de comment on fait. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis d'accord, le fait d'aborder le cinéma va permettre, et notamment à partir de l'expérience de plaisir que ça provoque, va permettre de travailler de façon directe sur l'émotion de chacun. Mais comment on fait ça? C'est-à-dire que c'est pas forcément si simple. Peut-être je peux emmener mes élèves voir un film, mais peut-être ils seront pas attentifs pendant la projection. Et peut-être du coup je vais avoir la sensation que ça a pas marché. Peut-être c'est un film que j'apprécie, moi, beaucoup, et j'ai l'impression qu'ils ont pas reçu ce qu'ils auraient dû en recevoir. Et du coup, c'est compliqué, ça, parce que finalement, nous, on a des référents culturels aussi, on a des choses qui nous semblent de grande valeur, qu'on a envie de transmettre, mais parfois, ça marche pas, quoi, vous voyez. Et du coup, il y a comme une sorte de déception, et du coup, voilà, c'est de ça dont je veux vous parler. Comment on fait? Et notre collègue fera peut-être une petite conclusion avant qu'on discute tous ensemble, parce qu'on va bien sûr laisser la place à la discussion. Alors comment on fait? Ben déjà, moi, si j'arrive pour proposer à des jeunes gens de faire des films, prenons un exemple concret, je suis là, disons, une journée dans une classe, et je suis l'intervenant, on va faire des films. Par quoi on commence? Parce que faire un film, a priori, on se dit, bah, faire un film, qu'est-ce qu'il faut pour faire un film? Il faut écrire un scénario avant de faire le film. Bah, peut-être, mais je sais pas, en fait. Il y a plein de façons de faire un film. Après tout, au quotidien, les jeunes gens d'aujourd'hui, ils font des films en permanence. Ils filment des choses et ils les diffusent sur YouTube, sur Facebook. Peut-être qu'on peut juger ça négativement, on peut dire non, mais c'est nul. Et eux-mêmes, d'ailleurs, si vous leur posez la question, vont dire c'est nul. Ce qu'on fait, ça nous fait marrer, mais c'est nul. Alors, c'est quoi le critère, finalement, de la valeur d'un film? C'est quoi la valeur d'un film? Ben, je vais vous dire, la valeur d'un film, c'est sa valeur économique. C'est combien d'argent il permet de gagner. C'est ça, la valeur d'un film. En tout cas, dans ce qui se pratique au quotidien et dans les dispositifs aussi tels qu'ils sont mis en place. Alors c'est vrai que un film professionnel, on va payer sa place, Donc vous voyez que c'est concret cette valeur, hein. On paye sa place. On achète un DVD, on paye sa redevance télévisuelle, ou on regarde de la publicité, on s'expose à de la publicité, c'est l'écho qu'on paie au fait de pouvoir voir des films. Et il est vrai que la production amateur, a priori, n'a pas de valeur marchande. Pas du tout autant de valeur marchande qu'un film professionnel qu'on va aller voir dans une salle de cinéma. Ben ça, c'était vrai avant, mais c'est plus du tout la réalité d'aujourd'hui. Depuis 2005, l'apparition à la fois des caméras dans les téléphones portables et de la plateforme YouTube, qui est la plateforme vidéo principale, eh bien, c'est quoi cette plateforme vidéo ? C'est tout un chacun qui poste des vidéos. YouTube, parce que la vraie façon de dire, c'est YouTube, mais si vous dites YouTube dans une classe, je peux vous dire que ça fait marrer tout le monde, hein, parce que c'est pas le vrai mot en français, c'est YouTube. Sur cette plateforme, les utilisateurs, les gens, et a fortiori les adolescents avec lesquels on travaille, postent chaque minute 100 heures de vidéos. Chaque minute qui passe, il y a 100 heures de vidéos supplémentaires disponibles sur YouTube. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui proviennent de la télévision, évidemment, mais il y a aussi énormément de choses, on ne sait pas parce qu'on ne les voit pas, qui viennent de nos téléphones portables, de nos webcams et autres. C'est extrêmement simple de poster une vidéo. À côté de chaque vidéo, il y a une publicité. Il y a 3 milliards de vidéos qui sont vues en moyenne par jour. Et la publicité, ben, c'est des annonceurs publicitaires qui paient. Ça rapporte en moyenne 10 dollars pour 1000 vues. Une vidéo qui est vue 1000 fois rapporte 10 dollars. Comme il y en a à peu près 3 milliards qui sont vues par jour, vous pouvez calculer le chiffre d'affaires quotidien. Il y a certaines vidéos amateurs. Vous pourrez en trouver comme... je ne sais pas si j'ai la connexion internet, mais c'est pas grave, je ne vous la montrerai pas, mais je vous la cite. Une vidéo qui s'appelle Charlie Beat My Finger. Je ne sais pas si vous connaissez cette vidéo, qui dure 56 secondes. Charlie Beat, B-I-T, My Finger, qui a été vue 600 millions de fois, qui a donc rapporté 6 millions de dollars. Eh bien, ce qui a changé depuis 2005, c'est que les contenus amateurs ont une valeur marchande plus importante que les contenus professionnels. Les industriels d'aujourd'hui gagnent plus d'argent en accrochant de la publicité aux contenus amateurs et à leurs échanges qu'en faisant payer des places dans les salles de cinéma. Donc, il y a une valeur aujourd'hui de la pratique amateur. Ça pose beaucoup de questions aux professionnels, ça, parce que on se dit, mais alors à quoi on sert ? Finalement, si la valeur, c'est l'économie, dans la mesure où, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que l'économie de la production amateur en termes de masse globale dans le monde commence à devenir plus importante en termes de valeur que la production professionnelle. À terme, la production professionnelle ne sera qu'un sous-ensemble de l'ensemble de cette production audiovisuelle. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en tant que professionnel de visuel, du cinéma? Et puis, qu'est-ce qu'on fait en tant que médiateur du savoir? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on situe la valeur, finalement? Moi, ce que je propose, avant de faire un film avec des jeunes, et puis même avant d'en faire avec vous, parce que cet après-midi, j'anime un atelier, on fera un film collectif cet après-midi, donc on est en train de s'y préparer, en fait. Moi, ce que je propose avant de faire un film, c'est peut-être déjà de réfléchir sur notre rapport à l'image aujourd'hui, sur le nôtre, mais aussi sur celui des adolescents. Et du coup, par quoi commencer ? Parce que si je commence, on va écrire un scénario. Mais encore faudrait-il savoir, pour nous c'est évident ce que c'est qu'un scénario. Mais pour un jeune de 15 ans ou de 12 ans, est-ce que c'est si évident que ça? En fait, on n'en sait rien. Et je crois qu'il faut le demander. Je crois que c'est le point de départ. Donc en fait, je vous fais une proposition, et c'est quelque chose que je fais souvent. Je ne fais pas toujours la même chose, mais c'est quelque chose que je fais souvent. Je dis, qu'est-ce que c'est qu'un film? Et puis, même avant même de poser cette question-là, citez-moi des types de films. On va pas faire l'exercice ensemble, c'est trop facile. Mais, par exemple, là, j'étais 15 jours à Libourne, il n'y a pas très longtemps, et je vais vous montrer comment je fais. En fait, je fais ce qu'on appelle une... Je vous avais dit, c'est concret. Je fais ce qu'on appelle une mind map. Je ne sais pas si vous connaissez le mind map, les caractéristiques. Je mets ça. Allez, citez-moi 2-3 types de films, juste que vous voyez comment ça fonctionne. Les types de films. Vous ne connaissez pas de films ? D'autres ? Allez, un dernier. Ok, ça je fais ce que je viens de... Vous lisez, monsieur Dutisson-Fond, vous arrivez à lire ? Non, vous lisez pas ? Attendez, je mets un peu plus... Là, vous lisez ? À peu près ? Ça paraît simple comme exercice, c'est extrêmement ludique. C'est le bazar dans la classe. Pourquoi ? Parce que chacun a envie de dire le film qu'il aime, le film dont il se souvient. Ce qui sort aussi, c'est pas que des titres de films. Il y a aussi des titres de séries, des titres d'émissions de télé-réalité, des choses comme ça qui sortent. Et du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je fais ça ? Je suis là, avec des gens, je leur demande ça. Et j'écris sur l'écran, avec des caractères, vous voyez, je suis officiel, on va dire. J'écris la parole des gens. C'est-à-dire que j'institutionnalise leur parole. Je donne à leur parole une valeur collective. Elle est importante parce que je l'ai écrite sur l'écran. Et même des films, parce que c'est marrant avec les adolescents, et notamment, alors je ne sais pas si c'est propre à la région, mais alors quand j'étais là au mois d'octobre, les ados ici adorent les films d'horreur. Alors j'ai appris plein de trucs sur le cinéma d'horreur, vraiment, c'était super intéressant. Et là, en fait, ce que je fais, c'est qu'au départ, bon voilà, on prend des titres de films, on discute, mais finalement, les émissions de télé-réalité, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est pas un film ? On discute de ça. Et puis ensuite, vu que c'est une carte heuristique, je peux mettre des genres. C'est-à-dire, par exemple, on va mettre le genre horreur, par exemple, et puis je vais répartir, vous voyez, les choses, aventure, etc., etc. Bon, j'ai qu'un seul film d'horreur là. Et en fait, on organise collectivement une pensée, tout simplement. Et aussi, pour moi, c'est absolument crucial parce que ça me permet. On dialogue en fait. On dialogue, mais c'est pas un faux dialogue parce que je donne de l'importance. Et même s'il y a 12 films d'horreur. Et bien, je vais noter les 12 types de films d'horreur parce que j'ai posé une question et je dois être honnête intellectuellement. Si j'ai posé une question, je dois vraiment écouter la réponse. Vous voyez ? Et pas seulement attendre. Alors, on est tous, bien sûr, dans une certaine attente. Mais je considère que mon travail, dans le cadre que j'ai proposé moi-même, c'est d'être à l'écoute. Et c'est loin d'être simple. Parce que on aurait envie qu'il y ait peut-être certains films, vous voyez, on a envie peut-être de pousser, de... Et bien sûr, on le fait d'une certaine manière. Et du coup, à l'occasion de ça, bah du coup, déjà, on commence à distinguer un peu, voilà, reportage, télévision, cinéma, vous voyez, à distinguer un petit peu les différentes intentions qu'il y a dans tout ça. Et en fait, on est en train de se préparer à faire un film. Parce qu'ensuite, je demande aussi... Du coup, une fois qu'on a des titres de films qui commencent à être un peu organisés, des noms de réalisateurs. C'est pas évident, ça. C'est assez marrant, d'ailleurs, souvent, il y a des noms de réalisateurs qui sortent du genre Steven Spielberg, mais on ne sait pas quel film il a fait. C'est assez marrant. Et du coup, moi, je connais pas du tout tous les réalisateurs, donc parfois, certains élèves vont chercher des choses comme ça, ça va dépendre des groupes. Mais demander des noms de réalisateurs, c'est pas pour forcément, justement, être dans le référent culturel et dans la maîtrise culturelle, mais c'est pour essayer de situer qu'il y a quelqu'un qui a fait le film, vous voyez. Je crois que la production d'images dont je parlais tout à l'heure, la production d'images quotidienne qu'il y a, bien sûr, on est d'accord pour dire que c'est pas du cinéma. Mais en fait, c'est aussi quelque chose dont je trouve qu'il est important de parler avec les jeunes, c'est-à-dire qu'en discutant avec les jeunes, finalement, on en arrive au fait que c'est un peu comme une conversation, finalement. On s'envoie des tas de messages, ça peut être des mots, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. C'est tout ça, c'est une conversation. Et du coup, une fois qu'on a fait une liste de films comme ça, on va essayer de distinguer c'est quoi ces films par rapport à c'est quoi ce qu'on fait au quotidien. Ce qu'on fait au quotidien, c'est totalement contextualisé. C'est-à-dire que mes petites vidéos, mes petits textes, je les adresse à mon réseau social, comme on dit. Si j'ai filmé mes enfants et que je les mets sur YouTube pour partager avec ma famille et qu'ils font une grimace, ça va nous faire tous hurler de rire parce qu'on sait à quoi elle fait référence, cette grimace, parce qu'il y a 2 ans, vous vous rappelez à Noël. Et c'est à ça qu'elle nous fait penser. Mais vous, si vous voyez cette vidéo-là, vous ne les connaissez pas, mes enfants. Vous voyez des enfants qui font une grimace, ça ne vous fait aucun effet. Donc toute cette production, toute cette conversation, elle est totalement contextualisée. Et la différence, c'est que ces films-là, moi, je ne les connais pas, les gens qui ont fait ces films-là. Et peut-être qu'ils les ont fait il y a super longtemps, et peut-être même ils sont morts, ces gens. Mais pourtant, j'ai peur dans La Nuit des Morts Vivants, je ris à La Grande Vadrouille, à Retour vers le Futur, je ris à Mon Oncle, je suis touché par M. Le Maudit, tous ces films me font quelque chose. C'est-à-dire que le réalisateur, Fritz Lang, quand il a fait son film, il a pensé à moi. Il a pensé à moi, il ne me connaissait pas, mais il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour un autre. Cet autre dont tu parlais au début, Carole. Cet autre avec un grand A. Cette personne qu'on ne connaît pas. Cet autre, c'est aussi l'espace social, finalement. Faire un film, c'est quoi? Dans la proposition que moi, je fais, c'est créer quelque chose pour le proposer aux autres. C'est simple à dire, mais à faire, c'est pas si simple. C'est-à-dire que si je viens pour organiser une journée où les jeunes vont faire des films, ils vont pas seulement faire des films, ils vont faire des films pendant la journée, mais ces films, il faut absolument qu'ils soient montrés dans un cadre institué, qui peut être simplement à la fin de la journée, à 16h30, on fait une petite projection de ce qui a été fait pendant la journée et on invite le directeur d'établissement ou je sais pas, quelqu'un qui a envie de venir. C'est-à-dire que ce que je me propose d'éclairer, c'est cette dimension de la diffusion. Parce qu'aujourd'hui, on est tous, et notamment les adolescents, responsables de diffuser des choses, de rendre public des choses. Ce n'était pas le cas avant. Avant YouTube, je dis YouTube pour simplifier, hein, parce que c'est un vaste domaine. Avant YouTube, les professionnels avaient le pouvoir de rendre public quelque chose. Les amateurs, ça restait dans le cercle privé. Et du coup, il y avait toute une responsabilité, on va dire, éthique, enfin morale, une déontologie et tout ça. Être éditeur, c'était pas rien. Ou être chaîne de télévision, c'était pas rien. On se pose tout un tas de questions. Et aujourd'hui, tout le monde a ce pouvoir de rendre public. Et on sait, nous, à quel point une image c'est important. Même s'il y en a 100 heures par minute, on sait qu'une image, ça peut sauver ou ça peut tuer. Une image, quoi, transmise. On le sait tous, on en a tous des exemples dans nos pratiques et on sait des choses qui ont pu arriver. Et du coup, il me semble que si on fait une proposition comme ça pédagogique de pratique artistique, il me semble que il faut aller jusqu'à la diffusion. Ce qui est important, c'est pas tant d'avoir fait le film, bien sûr, il faut le faire, il faut y mettre de l'attention, et on rentrera beaucoup plus dans les détails de cette fabrication cet après-midi, si je ne vais pas parler de tout ce matin, puis je vais bientôt m'arrêter d'ailleurs. Mais il faut aller jusqu'à la diffusion. Et finalement, notre travail, enfin en tout cas moi je considère mon travail, c'est de regarder autrement ce qui a été produit autrement. Du coup, on va prendre, à la limite, on va prendre n'importe quoi. On peut prendre un téléphone portable pour tourner un film, on peut prendre un appareil photo. À la limite, ça a plus d'importance aujourd'hui parce que vous savez, un téléphone portable avec une caméra, nous, ça nous paraît un peu extraordinaire, peut-être, parce qu'on les a vus apparaître et puis on n'en a pas. Qui n'a pas de caméra dans son téléphone portable? Levez la main. Ok, on va dire on est à 5%, même pas. Hein. Mais c'est encore plus banal pour les jeunes que pour nous. C'est comme un stylo, en fait. Il n'y a plus de question. Par rapport au numérique, il n'y a plus la question de l'outil. L'outil n'a aucune importance. La seule chose importante, c'est ce qu'on fait avec. C'est-à-dire que mon stylo, ce bête stylo-là, peut-être demain, je vais aller dans un atelier d'écriture et on va me proposer d'écrire une nouvelle et j'y avais jamais pensé, j'ai jamais écrit de nouvelle de ma vie. Mais peut-être si quelqu'un de sympathique, d'empathique, peut-être sympathique, ça c'est pas forcément si mal, me propose, peut-être je vais écrire quelque chose de super important et que mon stylo il soit Bic ou il soit Montblanc, ça change rien. Vous voyez? Ben, c'est exactement pareil avec la caméra. La caméra, il n'y a rien de plus banal qu'une caméra aujourd'hui. Elle est partout, elle est massive, mais du coup, si on propose de dire « Ouais, mais on va faire comme eux, on va faire comme Fritz Lang, on va faire un film et peut-être que il faut avoir une intention. » Et du coup, ensuite, après avoir fait la liste des films comme ça, je leur demande « Mais qu'est-ce que ça vous fait, les films? Qu'est-ce que ça nous fait de voir un film ?» Et je fais pareil. Et donc, ben, ça nous fait peur, ça nous fait rire, ça nous apprend des choses. Alors après, moi je dis, il y a une question de conscience politique, mais c'est pas le genre de mots qui sortent chez les adolescents. Mais voilà, on va lister toute la force des émotions que nous apportent les films, et on sent bien, et justement dans la discussion, que c'est pas que des émotions, c'est des émotions sur lesquelles s'appuie une construction personnelle. Et ensuite, moi je propose aux jeunes, je leur dis, ben voilà, vous allez choisir, vous allez vous mettre par groupe de 3-4, vous allez faire un petit film. Et il va falloir que vous choisissiez qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez faire peur, vous voulez faire pleurer, vous voulez faire rire. C'est un magnifique projet de faire rire les gens. Sauf que il faut faire rire, non pas juste ses copains autour de nous, mais il faut faire rire des gens qu'on ne connaît pas. Et là, c'est pas simple. Comment on fait pour faire rire des gens qu'on ne connaît pas, vous voyez? Et là se posent des questions de créativité et d'expression. Pour finir rapidement, puis je vous montrerai. Je ne sais pas, maintenant ou tout à l'heure, enfin, peut-être tout à l'heure dans les questions, parce que je veux qu'on avance. Moi, je propose, donc si vous voulez, je mets la barre très haut, finalement. Et je vais proposer souvent, et c'est ce que je vous proposerai cet après-midi, de faire un film en plan séquence. C'est-à-dire, le film il est tourné, j'allume ma caméra, je tourne mon film, et je appuie sur le bouton et mon film il est filmé. Sauf que c'est un film. C'est pas juste, je peux filmer comme ça vite fait, mais vu que c'est un film, il faut qu'il y ait un titre au début, par exemple, pour qu'on comprenne, pour accompagner le spectateur à rentrer dans le film. Il faut qu'il y ait un générique à la fin. C'est pas un problème, on peut le faire en plan séquence. Hein. J'écris mon titre sur une feuille de papier, je commence par filmer mon titre. Et du coup, ce qui est intéressant avec le plan séquence, fait par des groupes de 3-4 élèves, pas plus, il y a des problèmes de pouvoir qui se mettent en place et tout. Eh bien, le plan séquence, je vous dis, ben voilà, vous allez faire un film peut-être très court et recommencez-le autant de fois que nécessaire, jusqu'à temps que vous soyez satisfait de ce que ça donne. Et du coup, ben, si on rigole, par exemple, pendant qu'on est en train de faire le film, ben, faut le refaire. Parce que ceux que ça va amuser, c'est ceux qui ont fait le film. Mais des gens qui ne connaissent pas, ça ne va pas les faire rire, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de rigoler. Donc, voilà. Je donne, et ça je vous en donnerai plus de détails cet après-midi, tout un tas de cas traitent des contraintes. Le titre du film, par exemple, ils vont choisir parmi 10 mots, ou alors il va y avoir une voix off absolument, ou alors il va y avoir de la musique. Vous voyez, je donne des contraintes comme ça. Ou alors dans le film, il n'y aura que des objets, ce sera un film d'animation. Vous voyez, je donne des contraintes comme ça. Le cadre est très clair. Et je propose au groupe de jeunes, je leur dis, ben maintenant, allez faire le film. Et puis revenez, vous le faites autant de fois que nécessaire, vous revenez avec le film fini. Je vais donner, alors ça dépend des cas, mais on va dire 30 minutes. Je peux vous dire qu'avec les étudiants de cinéma, 30 minutes pour faire un film de 3 jours, c'est ça que vous voulez dire? Non, 30 minutes. C'est impossible. Ben, c'est comme ça. Il y a des gens qui attendent les films, et c'est nous. Et du coup, si vous voulez, quand vous avez quelque chose comme ça, ben les gens, il faut s'y mettre, quoi. Il faut inventer quelque chose. Parfois, il faut un peu accompagner, mais comment on fait pour accompagner ça? Ben, on dit, vous savez pas quoi faire? Ben, à ce compte-là, vous décidez. Qui c'est qui tient la caméra? Qui c'est qui fait la voix off? Qui c'est qui joue? Ok, c'est bon. Ben, allez-y, improvisez. Vous savez, dans le domaine de la danse, par exemple, on travaille beaucoup à partir d'improvisation. Et pourquoi pas dans le domaine du cinéma? Quand on est en plan séquence, le film, on peut le refaire 20 fois, 30 fois, 50 fois, jusqu'à temps de préciser les choses. Une demi-heure plus tard, d'ailleurs ça prend toujours plus qu'une demi-heure, mais ça je le sais. Du coup, ça c'est aussi pour la question de la gestion du temps. Je sais très bien que quand je dis une demi-heure pour faire un film, il faut que moi je prévoie une heure. Je le sais. Et quand ils reviennent, on va regarder le film. Pas du tout comme on le ferait là, parce que le dispositif de diffusion est absolument crucial. Même si c'est une salle de classe, là aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps, etc. Si, imaginons par exemple, là vous voyez, la lumière n'est pas occultée au fond. Ben, si on était dans un réel atelier, je peux vous dire qu'avant qu'on regarde les films, et moi je le saurais, j'organiserais dans le temps, on ferait en sorte d'occulter ça, on ferait en sorte d'être dans le noir. Donc, on prendrait les manteaux, on les accrocherait, je ne sais pas comment on se débrouillerait, on irait chercher du carton, du scotch, mais on prendrait ce temps-là. Même si on a pour 2 heures, on va fabriquer notre salle de cinéma. Il y a un problème de son, l'image n'est pas assez grande. Il y a tout un tas de choses qu'on peut améliorer ensemble, et du coup, c'est un travail physique, collectif, on va se fabriquer quelque chose. Cet endroit où on va regarder, le son n'est pas assez fort, alors tout à l'heure on a mis le micro devant, etc. Et ça, c'est absolument crucial, parce que, du coup, au moment où on va éteindre la lumière et on va regarder les films, on a fabriqué l'institution. Mais l'institution, elle ne s'impose pas à nous, on l'a fabriquée ensemble. Et du coup, je peux vous dire qu'à ce moment-là, on n'a pas de problème de discipline, mais du tout. C'est-à-dire que le silence, il est là. Et j'ai un certain nombre d'années de situations extrêmement diverses d'expériences. J'ai jamais eu de problème à ce moment-là. Parce que, tout à coup, ça va être un moment important. Et là, on va regarder les films. Tous les films. On va regarder les films des autres. Après, on va en parler. Et surtout, chacun, je peux vous dire que quand on fait un film et qu'on le montre aux autres, ça fait super peur. Vraiment, parce qu'on a peur d'avoir raté. En plus, on a eu peu de temps, etc., etc. Et on se rend compte, on vit les réactions des autres. On se rend compte qu'il y a un truc qu'on voulait faire, mais alors ça marche pas du tout. Mais qu'un hasard qui s'est passé, en fait, c'est super drôle, c'est incroyable. Et là, on apprend, justement, dans cette situation d'empathie, c'est-à-dire qu'on a fabriqué le dispositif pour être à l'écoute les uns des autres, et on est finalement un autre, l'un par rapport à l'autre, et moi-même, et vous, si jamais vous encadriez ce type, parce que c'est faisable, comme j'ai laissé les jeunes autonomes, ils étaient responsables de leur truc, ils sont revenus avec leur film, et moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai juste donné un cadre, et du coup réellement je les découvre les films. Donc réellement l'échange il est là, je découvre et j'ai le plaisir du spectateur, et finalement moi ce que je dis c'est qu'un film finalement c'est un cadeau qu'on offre au monde entier, et bien ça se passe dans la situation concrète, et je peux vous dire qu'on apprend énormément, et que par exemple sur des questions techniques, de rythme, de montage, de tout ce que vous voulez, après cette projection, si c'est juste après ou si c'est le lendemain ou la semaine d'après que vous dites aux jeunes, vous allez refaire une nouvelle version de leur film, mais ils foncent pour faire la nouvelle version de leur film. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire. C'était pas la peine de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien. voilà comment tu devrais faire. Ils l'ont bien compris eux-mêmes, ils ont une idée de ce qu'ils devraient faire, ils vont retravailler après, et puis ensuite on va regarder, et du coup on peut fabriquer des films comme ça de façon successive, en donnant finalement de l'importance, et l'apprentissage il se passe au moment du regard. Et si vous voulez, on porte le regard autrement, et du coup on vit dans son corps, dans son émotion, qu'une image c'est très important, que ça a énormément d'impact, et que et cette dimension créative, si vous voulez, qu'on a suscitée, devient finalement une dimension sociale. Je m'arrête là pour passer la parole à Thomas, et puis peut-être dans la discussion, je passerai un exemple de film.